L'offensive turque en Syrie, bien évidemment, est au cœur de nos préoccupations.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Et bien sûr, au cœur des nôtres ce soir. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre nouveau rendez-vous. Nous sommes lundi 21 octobre, le NRV fait toujours coup double, en deux temps et à deux vitesses. Dès 18h, vous êtes en avant-première avec le podcast, ou alors 22h minuit, c'est plus classique. C'est à l'antenne, comme tout le monde. Première partie, l'actualité, la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Et l'actu ce soir, c'est Turquie-Syrie, et ce n'est pas un match. L'armée turque a envahi le territoire syrien pour créer une zone de tampon, une zone de sécurité de 30-32 km. En fait, une guerre ouverte contre les Kurdes. L'armée se trouve face à l'armée de Bachar el-Assad. Problème, les djihadistes emprisonnés. Problème, les répercussions sur le plan international. Trump qui tweet ses délires. Poutine au centre du jeu diplomatique. La France qui cesse les exportations d'armes à la Turquie. La Chine qui se tient bizarrement à l'écart. L'engrenage sera-t-il fatal? Christophe Bourseiller.
Oui, c'est pas mal. Écoutez, jeudi dernier, vous prédisiez la Troisième Guerre mondiale. Je trouve que ça, c'est plus cool à la limite, hein, ce que vous venez de dire. Moi, j'ai quelques titres, bien sûr, Syrie, Turquie vers l'embrasement, point d'interrogation. J'avais aussi, très sérieux, hein, le côté sérieux, Turquie-Syrie, la guerre de trop, point d'interrogation. Syrie-Turquie, donc vers l'embrasement. Ou alors, dit Syrie, elle va où, la Turquie?
Là,
c'était plus travaillé.
Ouais, il vaut mieux moins travailler, Christophe.
Et j'en ai une autre, pour vous, c'est Turquie-Syrie, ils n'en ont Kurdes.
Oui, alors là, c'était hyper travaillé. Sur le plan musical, j'espère.
Vous me payez, donc.
Ouais, bah, un petit peu, hein.
Pas beaucoup.
Je garde pour moi. Sur le plan musical, Marion Guilbault, j'espère que vous avez un peu moins travaillé que Christophe Bourseiller.
Je sais pas. Moi, je me suis un peu éloignée du drame syrien, kurdo, turco, pour aller respirer avec la plus française des chanteuses brésiliennes. Elle s'appelle Flavia Coelho. Elle est en live à la fin de l'émission.
Enfin, au Brésil, ça va pas fort non plus.
C'est vrai qu'il y a une communauté turque.
Autre temps, autre parole, ce sera le NRV la suite, France Inter, plus de Mur de Berlin, et ce pendant deux semaines, à l'occasion des 30 ans de la chute du mur, on l'avait évoqué ici dans le nouveau rendez-vous. Première partie, deux semaines donc de rendez-vous avec X, bien sûr l'émission culte de Patrick Penaud, au programme Nid d'espions, la Stasi, et ce soir, premier épisode, les mystères du mur. Allez, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et avant de retrouver Christophe Bourseiller pour l'éditorial, je vous présente nos invités. Selçuk Demir, vous êtes avocat franco-turc et président de l'Alliance des juristes franco-turcs. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Face à vous, Gilles Kepel, politiste, spécialiste du monde arabe. Dernier livre sorti, c'est « Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient » aux éditions Gallimard. Bonsoir.
Bonsoir.
Juste à côté de vous, Paul Moreira, il est journaliste et documentariste. Et vous signez « Volontaires étrangers dans l'enfer de Raqqa », ça s'était déjà signé. Le film est disponible sur le site d'Arte. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Enfin, Salam Kawakibi, vous êtes politologue, syrien, directeur du Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris et président de l'association Initiative pour une Syrie nouvelle. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et puis il y a Chian Xian qui va nous rejoindre dans quelques instants. Elle est chanteuse et elle est kurde. On l'attend. Christophe Bourseiller.
Elle cherche à se garer, il faut
dire
la vérité.
Bah, autour de la maison de la radio, il faut tourner. Hein.
Il faut tourner, il faut savoir tourner. Hein, c'est tout un art. Je vous connais, Laurent. Vous êtes un homme simple. Vous aimez vous nourrir d'un yaourt nature et d'une poignée de pâtes. Un verre d'eau claire suffit à vous satisfaire. Hélas, le conflit syrien risque de vous plonger, Laurent, dans la sidération. Car désireuse de créer, comme vous le disiez, une zone de sécurité à la frontière turco-syrienne, désireuse peut-être d'en finir à terme avec le nationalisme kurde, désireuse peut-être aussi d'agrandir, pourquoi pas, le pourtour de l'Empire ottoman, la Turquie attaque l'enclave kurde de Syrie quand les USA décident subitement de retirer leurs troupes, peut-être par réflexe isolationniste. Dès lors, les Kurdes, qui sont, ne l'oublions pas, les principaux geôliers de Daesh, se trouvent lâchés par leurs alliés occidentaux, l'Europe se contentant de leur prodiguer de belles paroles. Là-dessus, l'armée syrienne entre dans la boucle. Par le jeu des alliances, le risque d'un conflit généralisé se profile. Bref, c'est un salmigondi, un hachis, un massalé. Mais qui va tirer les marrons du feu? Qui va récupérer les dépouilles du Rojava? Que vont devenir les terroristes de Daesh qui se retrouvent seuls, plus ou moins seuls, dans des prisons abandonnées? Alors, Salam Kawakibi, est-ce que vous pourriez nous indiquer où en est précisément ce complexe conflit à ce jour?
Bon, déjà, l'armée syrienne qui est invitée à pénétrer dans certaines localités qui jadis contrôlées par les milices du PAIG ne sont pas vraiment des opérationnels. Ce sont là pour le symbole. l'armée syrienne qui est opérationnelle reste encore autour de la capitale pour protéger le régime de Bachar al-Assad. La majorité de l'armée syrienne classique, qui n'est pas les unités spéciales ou autres, est vraiment sont des masses de gens avec des armements très faibles. Par contre, ils ont été invités par la Russie. Et cela n'est pas du tout contrairement à la volonté turque. Contrairement à ce qu'on croit ici en France ou ailleurs, que l'armée syrienne va se confronter à la Turquie, la Turquie sera ravie si l'armée syrienne contrôle la zone tout en mettant à l'écart les milices kurdes. À savoir que l'armée syrienne depuis les années 60, ainsi que les régimes syriens successifs, ont maltraité la population kurde, ils l'ont discriminée, ils l'ont interdit même d'exprimer sa culture ou utiliser sa langue. Ils l'ont instrumentalisée à un moment donné en contrôlant le PKK dans les années 90, jusqu'au moment où la Turquie a massé des forces armées sur les frontières et a obligé la Syrie à signer les accords d'Adana 1998, où c'est clair sur papier écrit que les militaires turcs peuvent pénétrer le territoire syrien pour chasser les milices dites terroristes.
Mais est-ce que c'est pas une tentation de la part des Kurdes de se replier éventuellement sur Damas, sur le régime de Damas,
voyant que
tout le monde semble les lâcher, Gilles Kepel?
Comme l'a dit Salam à l'instant, je crois que la plupart de ces acteurs, en tout cas du côté syrien, et une partie des Kurdes aussi syriens, font ce que, pour l'instant, Poutine leur dit de faire. C'est lui qui prend les véritables décisions. Le régime d'Assad n'a qu'une marge assez réduite, finalement. Ce sont les Russes qui, sur leur base aérienne de Hmeymin, sur la côte syrienne, ont fait se rencontrer des dirigeants kurdes de Syrie et des représentants du pouvoir de Damas pour négocier les formes du retrait. En fait, la matérialité vient d'être précisée par Salam Kawakibi, c'est-à-dire que ce ne sont pas les troupes de choc, ce sont des gens qui sont présents pour marquer. Et pour les Russes, il n'est pas utile que les Kurdes soient complètement désarmés et disparaissent. Ce qu'ils veulent, c'est les couper des Occidentaux. La Turquie cherche à contrôler une zone tampon parce qu'elle veut éviter que les Kurdes syriens du YPG, donc qui sont très liés au PKK turc, considéré par eux et du reste aussi par l'Union européenne comme terroristes, ceux du PKK, ne disposent par exemple des armements que les Américains avaient donnés au YPG contre Daesh et autres qui seraient utilisés contre les forces turques. Donc pour l'instant, la seule véritable inconnue, c'est plutôt ce qui va advenir des djihadistes. Et là, on a un grand point d'interrogation, puisque au fond, si les djihadistes s'échappent, ça met une pression terrible sur les Européens. Si jamais c'est le régime de Damas qui en récupère un certain nombre en les faisant prisonniers, comment voulez-vous ensuite que les affaires étrangères françaises aillent discuter avec le régime syrien si des femmes djihadistes françaises sont jugées à Damas?
C'est une sorte de pression énorme,
il va falloir venir à Canossa. Donc c'est un peu là la situation. Et pour ça, les Russes, au fond, trouve que c'est bien que les Occidentaux soient dégagés du milieu, et c'est aussi le sens pour cela des déclarations récentes de Jean-Yves Le Drian disant qu'il faut trouver un mode de dialogue et de négociation avec les Russes qui sont pour l'instant la puissance centrale.
Ça choque de mire.
Ce qu'il faut également dire par rapport à Daesh, et c'est très très important, c'est que s'il y a bien un pays dans la zone qui est attentif à la situation des terroristes et des djihadistes de Daesh, c'est bien la Turquie. Parce que la Turquie, elle est confrontée au premier niveau à la menace que représente Daesh. Il y a eu quand même des centaines de morts civiles suite aux attentats de Daesh.
Suite aux attentats, en effet, en Turquie.
Notamment suite à la reconnaissance des combats de l'armée turque contre Daesh et aux différentes opérations qui ont lieu dans le nord de la Syrie contre ce groupe terroriste. La Turquie a été au front contre Daesh, notamment sur le plan militaire et au sol, pour éradiquer cette organisation terroriste du nord de la Syrie. C'est très important de le dire. Et si donc il y a un pays qui est particulièrement attentif à cette situation-là, c'est la Turquie. La Turquie qui d'ailleurs, et c'est très important également de le dire, coopère parfaitement avec la France depuis le protocole Cazeneuve de 2014 et livre régulièrement non seulement des informations très importantes concernant justement ces réseaux djihadistes qui sévissent si elle est, mais surtout donne des terroristes de Daesh, livre des prisonniers qu'elle intercepte sur son sol mais aussi à l'étranger. C'est très important et la Turquie est en pole position justement pour assurer cette
les
sécurité.
Qui sont en pole position pour assurer, par rapport
alors,
à Daesh.
Pas seulement pour assurer cette sécurité, donner des informations à la France, coopérer parfaitement, comme d'ailleurs le note le président Macron depuis maintenant un certain nombre d'années.
Paul Borrera, vous avez été sur le terrain il y a quelques temps, justement, comment vous regardez la situation du côté des Kurdes?
Alors moi j'ai couvert la bataille de Raqqa, de ses débuts en juillet jusqu'à la chute de Raqqa en octobre. Bon, bien évidemment, je vais apprendre rien à personne ici, c'est pas les Turcs qui ont mené bataille contre Daesh à Raqqa, c'est les Kurdes qu'on appelle des milices et qui ont en fait créé une sorte de parapluie politico-militaire qui s'appelait les Forces démocratiques syriennes, dans laquelle il y avait les YPG, donc qui étaient les forces kurde à proprement
la milice
parler,
kurde, voilà.
On peut appeler ça milice si on veut, un groupe armé kurde en tout cas, et aussi des jeunes arabes généralement recrutés dans la population de Raqqa et dont un bon tiers en fait travaillant sous main pour Daesh, ce qui rendait les choses très 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 compliquées sur le terrain. Moi honnêtement, ce que j'ai vu depuis le temps que je couvre la Syrie, la première fois que j'y rentre c'est en novembre 2011 clandestinement par la frontière turque, et j'étais éminemment frappé par le fait que je suis passé sous les miradors de l'armée turque que je connais par ailleurs, et je sais que c'est pas des plaisantins, et j'étais surpris de voir qu'en fait, j'en parlais aux passeurs, je leur disais, mais attendez, là c'est l'armée turque quand même. Ils disaient, non, Turquie, no problem. Et en fait, il y a eu une sorte de tolérance, on va dire, de la part de l'État turc, à ce que y ait un aller-retour quotidien, massif, de gens qui étaient des révolutionnaires syriens, et il ne s'agit pas ici de questionner leur légitimité ou pas, mais qui, d'une manière ou d'une autre, allait créer un état de déstabilisation dans le nord de la Syrie. Et on sait aujourd'hui, en fait, que on se rend compte, avec l'entrée de l'armée turque au nord de la Syrie, que il y aurait une volonté de mise sous protectorat d'une bande de 30 à 50 kilomètres au nord de la Syrie par les Turcs, qu'on ne s'y prendrait pas autrement, quoi. Donc je pense qu'on est à un moment... Alors, la situation dans toute sa complexité, toutes ses facettes a été très bien décrite précédemment, parce que bon, c'est vrai que les Russes jouent un rôle énorme, mais je dirais, la nature ayant horreur du vide, c'est aussi de notre inaction que les Russes avancent, quoi. En octobre 80, en 2015, quand il y a eu les premières attaques chimiques à la Ghouta, on aurait pu 2013. Réagir... 2013, pardon, on aurait pu réagir, on ne l'a pas fait. Les Russes ont pris de plus en plus d'espace. Et de moi, ce qui me revient de mes conversations avec justement ces gens que j'ai suivis, là, les volontaires étrangers, il y a un exemple assez frappant, c'est Afrin. Quand les pro-turcs envahissent Afrin, qui est donc déjà c'est une sorte de bande-annonce, un territoire kurde, enfin, à majorité kurde, au nord de la Syrie, à la fois les Russes donnent l'autorisation, de fait, aux Turcs de rentrer. Et en même temps, me disent les gens que je connais, bah, ils nous informaient des mouvements de l'armée turque. Ils nous disaient, attention, ils arrivent sur tel front, protégez-vous, etc. Donc ce côté de fer au feu permanent des Russes pour se ménager un espace politique est assez fascinant en Syrie en ce moment.
Si je peux ajouter juste un élément dans 30 secondes.
Ensuite, Tianchan qui va nous rejoindre.
Après, brièvement, lorsque l'armée turque est entrée à Afrin, justement, le lendemain matin, il y a eu une déclaration de Monsieur Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, disant « Maintenant, c'est très bien, il faut que vous rendiez ça au gouvernement syrien ». Et ça a suscité des réactions très mécontentes et publiques de Monsieur Erdogan, qui a dit « Que Lavrov se mêle de ses affaires, nous rendrons Afrin aux gens d'Afrin quand nous le déciderons ». Donc on voit bien qu'il y a... La relation russo-turque est une relation assez complexe. Les Turcs ont acheté des missiles russes aujourd'hui, ce qui pose toutes sortes de questions en relation à l'OTAN. Mais les Russes ne sont finalement, ce sont les amis de tout le monde, mais ne sont alliés à 100% avec aucun des acteurs. Utilisent chacun d'entre eux en fonction de leurs intérêts. Voilà, pardon.
Tianchan, bonsoir, vous venez de nous rejoindre, je rappelle, vous êtes chanteuse et kurde. Comment quel regard vous portez-vous sur la situation? Est-ce que vous êtes en contact avec les Kurdes du côté de la Syrie?
Bien sûr, bonsoir.
Bonsoir
à tous et toutes. Je suis kurde de Rojava, de Afrin exactement. Ben, la situation à Afrin, qu'est-ce que j'en pense? Ma famille, elle est déplacée, ma mère qui est âgée, 95 ans. Ils sont chassés de chez eux, habités par des gens devenus d'ailleurs, et tout volé, toute la maison, tout ce qu'il y avait, papier, documents, tout était déchiré, tout était brûlé. Et donc, c'est catastrophique la situation. Et on ne sait pas. On ne sait pas. Les gens, on a la famille encore lointain là-bas et ils ne peuvent pas parler de ce qui se passe là-bas. Parce que les téléphones, ils ont été tous formatés par les Turcs. Donc, ils sont contrôlés, les téléphones.
Donc, il n'y a pas d'information qui peut circuler.
Ils ne peuvent pas trop... On ne sait pas. Les journalistes, c'est interdit. Personne. Les gens habitants de Afrin, s'ils vont se soigner, s'ils vont à Alep, il faut qu'ils demandent autorisation. Et c'est beaucoup d'argent.
À qui ils demandent l'autorisation?
Ceux qui sont sur place, qu'ils soient des Turcs ou leurs alliés.
L'armée syrienne libre, c'est ça, hein, le groupe...
Ce qu'ils sont avec eux, c'est... Je sais pas,
c'est des supplétifs.
Voilà,
il s'appelle officiellement Armée nationale syrienne, en fait, aujourd'hui.
Ah, d'accord.
Il y a eu des cas de la famille, des décès à Alep. Ils ne laissaient pas la famille aller avec eux au leur village.
Alors moi, j'ai entendu des choses horribles sur cette guerre. Vous allez me dire si c'est vrai, Selçuk, Demir. J'ai entendu que la Turquie utilisait du phosphore blanc. Est-ce que c'est vrai?
Écoutez,
et qu'est-ce que c'est?
Derrière toute bataille et tout conflit armé, il y a aussi une bataille de l'information, une bataille des images. Et évidemment, il faut dissocier le faux du vrai. Moi, ce que je constate, parce qu'il faut reposer sur des faits établis, c'est que l'Organisation internationale de lutte contre les armes chimiques a été saisie du problème et n'a même pas jugé utile de mener une enquête concernant ce point-là. Donc là-dessus, je prendrai les faits avec prudence. Ce qu'il faut peut-être également dire, c'est que, alors c'est surtout les rapports d'Amnesty International qui sont repris si elle a concernant ce problème-là, mais ces rapports d'Amnesty International qui disent depuis notamment 4 ou 5 ans que les YPG dans la région procèdent à de vastes opérations de nettoyage ethnique, déplacent les populations arabes, turkmènes ou chrétiennes de la région pour installer des Kurdes membres du YPG, ça par contre on en parle très très peu. Les faits, l'information, elle est prise selon les intérêts des uns et des autres. Et il faut à mon sens reprendre l'ensemble de l'information et peut-être analyser les rapports d'Amnesty International, de Human Rights Watch ou alors ceux du Conseil de sécurité de l'ONU qui pointent ce problème-là de nettoyage ethnique de la part du YPG pour réellement appréhender la complexité de la situation.
On va revenir sur la situation justement dans quelques instants. On reste sur un terrain belliqueux avec l'épée. L'épée, c'est le nouveau projet musical d'Emmanuel Seigné, de Liminianas et de l'américain Anton Newcomb. Riff de guitare tout de suite sur France Inter.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
L'épée sur France Inter, ils seront en concert près de chez vous avec une cigale à Paris le 14 décembre prochain. La programmation tranchante ce soir de Jean-Baptiste Audibert.
Malheureusement, les combattants de Daesh sont beaucoup plus nombreux que nous et cela peut s'expliquer simplement.
France Inter.
Socialist movement around the world.
Les mouvements socialistes dans le monde sont fragilisés, éclatés et incapables de se fédérer efficacement.
Le nouveau rendez-vous ?
Ils manquent de motivation pour venir ici et pour prendre les armes. La révolution n'a pas besoin des brigades internationales, c'est nous qui avons besoin de cette révolution.
Laurent Goumard.
Un extrait de votre film « Volontaire étranger dans l'enfer » de Raqqa, un film de 2019, Paul Moreira, c'est ce que l'on vient d'entendre. Ouais. Le film est disponible sur le site d'Arte. Turquie-Syrie, on en parle ce soir avec nos invités. Selçuk Demir, vous êtes président de l'Alliance des juristes franco-turcs et avocat. Gilles Kepel, politiste spécialiste du monde arabe. Paul Moreira, journaliste documentariste. Salam Kawakibi, vous êtes politologue et syrien. Et Shihan Xan, chanteuse kurde. J'aimerais d'abord qu'on revienne, avant de parler des djihadistes, avant de parler de la situation sur le plan international, de cette zone de sécurité que veulent les Turcs, de 32 kilomètres. Elle leur sert à quoi ? Pour quelles raisons faut-il installer cette zone de sécurité ?
Paul Moreira. Je crois que la raison officielle, c'est pour il y a une zone tampon militaire pour pas que il y ait des attaques des YPG, donc des forces kurdes contre l'État turc, ce qui n'a jamais eu lieu et ce qui est totalement à l'encontre de l'intérêt des forces kurdes qui sont pas totalement suicidaires. Dans la réalité, ça correspond à un projet qui, à mon sens, existait depuis un certain temps, qui était de démanteler l'embryon d'expérience autonome, puisqu'il n'y a pas de revendication d'indépendance chez les Kurdes du Rojava, mais d'autonomie kurde, avec, il est vrai, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, disons, la plupart des cadres du YPG, donc des Kurdes syriens, qui sont formés par des gens du PKK, qui sont donc des Kurdes de Turquie et qui sont considérés par l'État turc comme des terroristes et comme leurs pires ennemis.
Mais justement, il faudrait parler de cette enclave turque très particulière très particulière de Syrie, parce que c'est une zone autogérée avec des préceptes presque anarchistes qui s'appelle le Rojava. Et ce que disent les Turcs, c'est que c'est un foyer terroriste qui menacerait en quelque sorte la Turquie. Jihan Chian, vous venez du Rojava, vous.
Oui.
C'est un repère de terroristes ou pas ?
Du tout. Je pense que le monde entier a assez parlé des Kurdes ces derniers temps. Et maintenant, notre déception est totale. On est choqué par rapport.
Mais vous êtes des Kurdes un peu spéciaux. Je veux dire par là que les autres Kurdes vous considèrent comme des Kurdes un peu révolutionnaires, qui vivent une expérience sociale inédite quand même.
Pas tous. Ça, c'est une partie lutte,
ouais.
Mais c'est pas tous les Kurdes de Rojava qui luttent.
Mmh. D'accord.
Bien sûr, on est avec eux.
Salam Kawakibi, puis Paul Moreira, peut-être.
Oui, il faut être clair sur les nominations des choses. Comme elle l'a dit, madame, la population kurde du nord de la Syrie, elle n'est pas le POAD. Le POAD, il contrôle militairement la zone, parce qu'il a les armes. Par contre, il y a 16 autres partis kurdes qui sont très peu représentés, on entend très peu parler d'eux. Eux, ils sont pas du tout, c'est-à-dire, il y a une opération de prise d'otage de la population de la région par une formation armée, qui, je suis d'accord avec monsieur aussi, qui ne menace pas réellement, directement,
Paul Moreira, le
sud de la Turquie, mais par contre, il l'a aussi mentionné, leurs dirigeants sont des membres du PKK. Alors l'intérêt est régional. La zone, le ceinture de sécurité exigée par la Turquie, c'est pas seulement pour empêcher les opérations de terroristes, mais c'est aussi, comme l'a fait le régime syrien dans les années 60 voire 70, c'est de créer une zone de rupture entre la continuité démographique entre une population kurde du sud de la Turquie et une population kurde du nord de la Syrie.
Est-ce que ça serait aussi un moyen de pouvoir rapatrier certains des réfugiés syriens en Turquie ? On en compte à peu près plus de 3 millions.
Ils sont à peu près 4 millions, mais dont certains, ils sont installés dans des situations presque définitives. Bon, c'est une façon de menacer aussi, de dire qu'on va les rapatrier. Ce qui s'est passé à Afrin, c'est très significatif, parce que ceux qui ont occupé les maisons évacuées par la population kurde, pour une raison ou pour d'autres, parce qu'il y a d'autres Kurdes qui sont restés sur Afrin, ça a été donné à des réfugiés du sud de la Syrie, du Ghouta. Et ça crée une fissure au sein de la société syrienne qui sera très difficilement soignable, guérissable. Et ça aussi, ça rentre dans... Mais une chose à souligner, et monsieur l'a bien dit, concernant les rapports des Amnesty concernant le déplacement de la population dans la zone contrôlée par PAID. Ils ont commis ces crimes qu'on considère des crimes, mais c'est en aucun cas, ça peut pas légitimer qu'on fasse les mêmes crimes de l'autre côté. Ils ont déplacé de la population arabe, chrétienne ou musulmane et turkmane dans cette zone, mais c'était pas aussi massif qu'on peut imaginer, mais ça a été commis. Mais ça ne légitime en aucun cas qu'on fasse le contraire face à eux.
C'est le procédé kurde qu'on fait, là, de Post-Borrera, vous êtes d'accord?
Alors, moi, j'étais sur le terrain et j'ai pas vu du tout de nettoyage ethnique. Alors, peut-être qu'il y a eu, ici ou là, des villages où il y a des gens qui ont été déplacés. Je sais que, par exemple, dans le commandement de Raqqa, ils ont fait attention à aménager une place aux Arabes. Je sais qu'à, je sais pas, qu'à Michlo ou des zones comme ça, je voyais des Arabes et des Kurdes vivre côte à côte. Moi, je n'ai pas été le témoin. Je dis pas que ça soit pas arrivé ici ou là dans certains villages. Je n'ai pas été témoin de nettoyage ethnique mené par les Kurdes à l'encontre des populations arabes, du tout.
Pas les Kurdes. Je parle bien d'une des YPG, force armée qui contrôle
les YPG et le PYD, qui est le parti qui dirige les YPG.
Et par ailleurs, il faut dire aussi que l'expérience révolutionnaire du Rojava, elle est extrêmement limitée, parce que c'est une économie de guerre, donc l'utopie du Rojava, pour l'instant, elle est nulle et non avenue, sauf pour quelque chose qui est très spectaculaire et que vous voyez dans les rues, et pour quelqu'un qui connaît le Moyen-Orient, c'est une bouffée d'oxygène, les femmes. C'est quand même le seul coin du Moyen-Orient où les femmes existent, leur existence est éclatante, elles occupent des postes de pouvoir, et rien que pour ça, il faut défendre cette expérience.
Et après, j'aimerais bien poser une question à Selçuk Demir.
Oui, alors, effectivement, les Kurdes ont été un allié absolument essentiel, y compris les Kurdes armés du YPG, pour faire tomber Raqqa et pour détruire l'État islamique. Puisque pendant que les aviations occidentales bombardaient, ceux qui combattaient sur le terrain, c'était les gens du YPG, et qui ont perdu un grand nombre de combattants. Le camp Raqqa est tombé sur cette place épouvantable du centre-ville, ce carrefour où Daesh faisait ses exécutions. Je ne sais plus comment il s'appelle, Salam.
C'est pas grave.
Sarat Shouhada, je ne comprends pas. Aujourd'hui, les YPG, le lendemain, ont mis un immense portrait de Abdullah Öcalan, qui est le patron du PKK, emprisonné aujourd'hui dans l'île d'Emralı, en Turquie, si vous voulez. Donc, ils ont tout à fait assumé, d'une certaine manière, leur lien avec le PKK. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui, indépendamment des services extraordinaires qu'ils ont rendus, parce que s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas été débarrassé de Daesh.
Oui, mais c'est-à-dire que le PKK est un mouvement violent, peut-être comparable à ce qu'a été l'ETA ou l'IRA en Europe, pour essayer de comparer. Est-ce que Selçuk Demir, aujourd'hui, le régime de Erdogan, ne surestime pas un peu la violence du PKK, dans la mesure où, au fond, les plus gros attentats qu'on a vus, c'était Daesh.
C'était pas le PKK.
Est-ce qu'aujourd'hui, le PKK, c'est pas une puissance qui est un peu déclinante? Et est-ce qu'il n'y a pas une obsession de Erdogan à vouloir à tout prix, à toute force, éradiquer le PKK, peut-être parce que ça le sert sur un plan électoral ou sur un plan politique?
Écoutez, vous poserez la question aux familles des quelques 40 000 morts qui sont décédés suite aux attentats du PKK sur le sol turc depuis maintenant 40 ans. La menace du PKK, elle est toujours aussi intense. Il y a eu encore très récemment des attentats commis par le PKK et sa branche syrienne, le PYD, sur le sol turc. On a eu notamment des tirs de l'autre côté de la frontière, donc côté syrien, sur des villes en Turquie proches de la frontière syrienne. Donc cette menace du PKK, elle est toujours aussi importante. Et c'est ça que ne comprennent pas les Turcs, et ne comprend pas de façon générale le pouvoir turc actuel, c'est que on est face quand même à un double discours qui est insupportable. D'un côté, on soutient le YPG de façon manifeste, tout en sachant que ce YPG est un féodé au PKK, qu'on reconnaît également comme étant une organisation terroriste
oui.
Notamment la France et les États-Unis, mais aussi l'Union européenne. Donc, on peut légitimement, quelque part, comprendre que les Turcs puissent en vouloir à leurs alliés occidentaux, à leurs alliés au sein de l'OTAN, de soutenir une force armée terroriste, parce que reconnue comme telle par la France et les États-Unis notamment,
le PKK, oui.
Marxiste-léniniste, qui use de déplacements forcés, qui use d'enrôlement forcé dans le nord de la Syrie, qui a procédé à un nettoyage ethnique, et d'un autre côté, demander aussi à la Turquie de coopérer pleinement, notamment dans la lutte contre Daesh. Ça n'a pas de sens pour les Turcs, et on peut comprendre cette colère des Turcs, cette colère d'Erdogan, à travers ce double discours européen, mais aussi américain, qui est insupportable, même si Trump, ces derniers jours et ces dernières semaines, a pris conscience du phénomène et s'est désolidarisé complètement du YPG, notamment face à la colère des Turcs.
Et ben justement, on va parler de la situation internationale, de Trump, de Poutine et de la France dans quelques instants. Tout de suite, lui, il prêche l'amour entre les êtres, il est bien, bien aimable. Entre l'autotune et les guitares, avec lui, tout est possible. Il est américain, bien entendu. Bon hiver. Bon Iver sur France Inter, programmation automnale de J'adore. Jean-Baptiste Audibert, et ça rime bien sûr.
Bravo.
Rendez-vous.
Je condamne avec la plus grande fermeté l'offensive militaire unilatérale qui est en cours en Syrie.
C'est extrêmement grave parce que ça remet en cause 5 ans de combat contre Daesh, parce que l'ennemi, c'est Daesh.
Aujourd'hui, la Turquie est en train de faire courir un risque humanitaire à des millions de personnes. Et ce risque humanitaire, c'est la responsabilité seule que prend la Turquie devant le reste de la communauté internationale.
Laurent Goumard.
Un tel lâchage en race campagne de gens qui sont nos amis, nos alliés, qui se sont battus pour nous, c'est ça les Kurdes. De les lâcher ainsi, c'est ça qui est ahurissant dans ce scénario qui est, je crois, sans précédent.
Sur France Inter.
Avant de regarder du côté de l'Europe, du côté de la France, avec Bernard-Henri Lévy, avec Emmanuel Macron, Syrie-Turquie, on en parle tout de suite avec nos invités. D'abord, j'aimerais revenir, parce qu'il était juste évoqué, pour quelle raison, véritablement, Donald Trump a lâché la Syrie ? Gilles Kepel.
Les États-Unis n'ont plus du tout aujourd'hui les mêmes intérêts qu'ils avaient autrefois au Moyen-Orient. Les États-Unis sont redevenus le premier producteur de pétrole mondial, grâce au pétrole et au gaz de schiste. Et c'est pas seulement la Turquie, mais c'est exactement la même chose qui s'est passée dans le Golfe, où d'une certaine manière, le jeu de provocation et de contre-provocation entre l'Amérique et l'Iran, les Américains s'étaient retirés du traité qui avait permis à l'Iran de faire du commerce en échange de la renonciation à l'enrichissement nucléaire. C'est soldé finalement par un bombardement d'origine inconnue. Enfin, c'est tout à fait curieux que, vu aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, l'origine du bombardement soit inconnue sur les containers de pétrole saoudien. Ça a fait baisser de moitié la production de pétrole
bombardement
saoudien.
Bombardement qu'on a dit iranien.
Oui, dont il est semble pas difficile d'imaginer d'où ils viennent. On voit pas trop. C'est pas vraiment l'Afrique du Sud ou la Colombie qui avait été bombardée. Et au fond, les États-Unis n'ont pas tellement réagi. Ils ont laissé les Saoudiens se débrouiller parce que Trump est obsédé par une seule chose, sa réélection. Or, comme vous le savez, il a été élu en position minoritaire, avec ce qu'on appelle le collège électoral. Madame Clinton avait eu 3 millions de voix de plus que lui. Dans un certain nombre de circonscriptions, ce qu'on appelle les swing states, le Minnesota, la Pennsylvanie et le Wisconsin, où étaient revenus de manière disproportionnée des soldats morts, enfin des cadavres de soldats morts de l'Irak, si vous voulez. Et pour lui, dans son discours quand il a gagné les élections, le retrait de toutes les opérations militaires est un argument électoral
populaire,
clé. Majeur, et il est convaincu que c'est quelque chose qui va lui servir pour sa réélection.
Alors, en même
en
temps,
2020.
Il est paradoxal de Trump, parce que vous avez vu, il a écrit une lettre absolument ahurissante à Erdogan, en lui disant, ne jouez pas au dur, ne faites pas l'idiot. On est quand même très loin des canons de la diplomatie traditionnelle.
Oui, bien sûr, mais là, si vous voulez, on a l'impression que il est vraiment sur la ligne de partage des eaux, parce que en allant tellement loin dans cette perspective, qui est uniquement celle de la réélection, il est en train aujourd'hui de s'aliéner un grand nombre de ses soutiens, y compris dans la majorité républicaine, parce que on pourrait dire en résumé qu'il y a 30 ans, en 1989, vous en avez parlé tout à l'heure, Laurent, c'était la chute de l'Empire soviétique, la chute du mur. Il faut se rappeler d'ailleurs que ça a été précipité par la défaite de l'armée rouge en Afghanistan, le 15 février, devant le djihad américano-saoudien. Et aujourd'hui, on a un peu le sentiment que finalement, on a 30 ans plus tard, c'est la fin de l'Empire américain, c'est-à-dire la capacité des États-Unis à maintenir de l'ordre dans le monde. Et pour le dire d'une manière facétieuse, Trump serait un peu dans ce scénario le Brejnev des États-Unis, vous voyez.
Alors ça, c'est du côté des États-Unis. Maintenant, regardons du côté de l'Europe. On a justement un coup de fil sur le répondeur. C'est notre auditrice qui nous a appelé au 01 56 40 37 37. Ben oui, c'est elle, l'auditrice, au 01 56 40 37 37.
Moi, ma grand-mère me disait toujours que la Turquie, c'est le pays qui veut entrer dans l'Union européenne. Que c'est le pays qui fait des efforts, qui se démocratise, qui se laïcise, qui se féminise. En 2010, on entendait que le vainqueur, c'est la démocratie turque. Et en 2019, le message, c'est d'empêcher la création d'une entité terroriste. À bien y regarder, on est passé d'un rêve de liberté et d'égalité à un pouvoir autoritaire qui n'existe que parce qu'il doit empêcher un plus grand mal. Et quoi, un effondrement, une crise ? Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi cette Europe qu'il désire tant ne fait rien ? Et pourquoi cette Europe ne lui fait pas changer de cap ?
Paul Morin, la réponse est scolaire aussi. Hein. Ouais, mais elle est pas mal,
elle
en
est
fait.
Pas mal, oui, oui.
Écoutez, c'est évident qu'il y a quelque chose de vertigineux quand on pense à ce que la Turquie a représenté avant que Erdogan face à ce coup d'État des gouléniste qui, à mon sens, l'a rendu un peu fragile sur le plan psychologique, voire psychiatrique, et qui se mettent à mettre en tôle des gens parce qu'ils avaient des lunettes, en gros. Et c'est quand même, les prisons turques sont pleines d'intellectuels, de journalistes, par dizaines, voire par centaines. Et je pense, ce n'est que mon avis éloigné, je ne suis qu'un psychanalyste de comptoir, mais qu'il y a un problème Erdogan en Turquie en ce moment, quoi. Et le déclenchement de cette offensive après un coup de fil nocturne, si j'ai bien compris, un dimanche soir entre Erdogan et Trump, où Trump va à l'encontre de tout ce que le Pentagone avait demandé, où ils avaient demandé de garder une présence américaine sur le terrain, à l'encontre même de ces secteurs les plus conservateurs des militaristes, et tout, et décide...
Et de ses alliances avec l'Europe aussi.
Et alors là, on se dit, mais en fait, c'est la rencontre de deux géants, quoi, de deux géants dans leur catégorie. Et quant à l'Europe, à mon sens, elle est totalement absente. Moi, il y a des forces spéciales françaises aujourd'hui sur le terrain. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elles se baladeraient pas entre les forces pro-kurdes, pro-turques et les forces pro-kurdes?
Salam Kawakibi, justement, oui. Sur la relation de l'Europe avec le conflit.
Je reviens, avant de parler de la relation de l'Europe, à ce que j'ai entendu tout à l'heure par, je crois, M. Bernard-Henri Lévy, quand il a dit « Les Kurdes ont combattu pour nous ». Non, il ne faut pas considérer les Kurdes comme étant des mercenaires des Européens. S'ils ont combattu Daesh, les Kurdes, c'est parce que c'est une menace pour la population syrienne dans sa globalité. On oublie toujours de dire que les Kurdes syriens sont des Syriens, en fin de compte. Et ils ont combattu pour leurs intérêts, propres intérêts. Si ça coïncide avec les intérêts de M. Bernard-Henri Lévy, pourquoi pas? Mais il ne faut pas dire qu'ils ont combattu pour nous. Je reviens à l'Europe. Je crois que l'Europe a démissionné depuis le début des années 2000, voire 2010, de jouer aucun rôle dans la région. La tuerie en Syrie dure depuis 2011. On n'a entendu que des beaux discours. L'Europe, maintenant, qui soutient des généraux à l'instar de Pinochet arabe, général Sisi en Égypte, en le fournissant des armes et en lui donnant toutes les raisons d'être, je crois que c'est incomparable avec la démocratie menacée à vrai en Turquie par certains comportements autoritaires, mais on peut pas comparer la Turquie quand même aux autres régimes arabes autoritaires militaires qui sont soutenus par l'Europe et que l'Europe continue à refuser toute critique à leur égard.
Sachouk Demir.
Écoutez,
Erdogan est-il un dictateur?
Le discours moralisateur du président Macron, mais aussi son courroux, sa colère, sont à l'image de son impuissance en réalité. Parce que la France aujourd'hui est totalement absente du conflit syrien, dans la mesure où la France a fait les mauvais choix. La France a misé sur le mauvais cheval. Quand on a misé toute sa politique sur le soutien au PKK, PYD, et qu'on se rend compte aujourd'hui qu'ils sont sur le terrain quelque peu affaiblis, en tournant le dos à un allié véritable au sein de l'OTAN, mais aussi au sein de toute une série de...
Et qui sont en train de s'allier à Bachar el-Assad.
Qui est la Turquie, quand on a misé sur le mauvais cheval, on en paie les conséquences. Et la colère du président Macron, elle est à la hauteur de son impuissance. Concernant le président Erdogan, je vois que on a vite fait de lui prêter des qualificatifs, notamment sur le plan psychiatrique, où je ne rentrerai pas dans ces débats-là. Moi, ce que je constate, c'est que c'est d'abord avant tout un dirigeant politique qui est aimé dans son pays. Et qu'il a gagné 13 ou 14 élections de suite à plus de 50%, les Turcs ne sont pas débiles. C'est bien qu'il y ait une raison pour lesquelles ces gens-là votent pour ces dirigeants de 20 ans en totale continuité depuis 20 ans. Il faut également dire, et c'est très important par rapport notamment au discours de M. Macron, que la Turquie, on l'a dit tout à l'heure, a accueilli 4 millions de réfugiés. En 2016, au bord du périphérique parisien, Porte de Saint-Ouen, quand ils étaient une centaine de réfugiés, c'était la catastrophe à Paris. Là, on n'est pas à 100 réfugiés, on est à 4 millions. Et la Turquie les a accueillis plutôt de façon digne. L'ensemble des organisations internationales le disent. Et évidemment, tout ça, ça a aussi un prix pour la Turquie. Ça coûte 40 milliards d'euros de faire face à cet afflux de réfugiés, soit près de 10 fois plus que ce que l'Union européenne a promis de donner dans le cadre, justement, de l'aide qu'elle est censée apporter à la Turquie pour ce problème des réfugiés.
Oui, mais là, justement, il y a tout un chantage qui se met en place.
Il y a une forme de chantage, parce que là, il y a la crainte, effectivement, d'ouvrir les portes et de voir de nouveau des réfugiés, des migrants arriver. Et puis, il y a une autre crainte très forte liée à cette opération Source de paix, c'est le titre que lui a donné l'armée turque, c'est que les djihadistes sortent de prison, les prisons étant désertées par leurs geôliers, et que les djihadistes rentrent. Et ça, évidemment, pour nous, Européens, c'est un péril tout aussi, peut-être encore bien plus important.
Ça a commencé, On sait, aujourd'hui qu'il y a des djihadistes, y compris des djihadistes français, d'après les informations qui ont été sorties par le Daily Telegraph, qui se sont échappés à la faveur du chaos des prisons qui étaient gérées par les Kurdes. Et que un problème relativement réglé, enfin, faut se souvenir quand même que l'État islamique, c'était la petite maison qui brillait dans la prairie pour tous les gens fracassés du cerveau qui habitaient dans les banlieues de nos sociétés. Et quand même, ce sacrifice par les Kurdes, par les Arabes qui étaient à leur côté, par les volontaires internationaux, qui a abouti à la fin du symbole qui a été l'État islamique, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de gratitude à l'égard des 11 000 morts qui sont tombés face à eux, quoi.
Tian Han, est-ce que vous vous sentez complètement dépossédé ou incomprise par l'Europe, c'est-à-dire l'inaction de l'Europe, abandonnée par l'Europe?
Oui, c'est exactement ça. En fait, moi j'ai un appel à travers votre radio de faire l'appel à l'Europe. Car ni la Russie, ni les États-Unis, c'est chacun leur intérêt. Et ils jouent avec nous, en fait, les Kurdes. Et après avoir donné des promesses, maintenant, vous avez évoqué Trump, tous les jours, il change des discours. Et nous, ce qu'on veut, c'est que l'Europe, si elle peut faire quelque chose, soit la France, c'est bien, elle nous aide. Il y a la population, tous les intellectuels, tous les milieux dans tous les milieux, ils nous aident. Des manifestations qu'on a fait récemment, il y a eu la maire de Paris, plein de personnalités, ils nous aident, ils nous soutiennent. Mais c'est pas, on dirait que c'est pas suffisant. Les paroles seulement, c'est pas suffisant. Donc on fait appel à la France, à Grande-Bretagne, l'Allemagne. Il faut qu'ils agissent plus que ça, car la Turquie n'arrêtera pas. Parce qu'elle est rentrée, soi-disant, à Afrin pour chasser les PKK. Ça fait un an et demi qu'elle est là-bas. Et maintenant, si elle s'arrêtera pas à Rojava, elle ira jusqu'au Kurdistan d'Irak. Là, pour nous, c'est la fin. C'est vraiment la fin, c'est un cauchemar.
Merci à vous. On va partir en musique dans quelques instants, j'avoue que c'est sans transition. On va partir en live tout de suite avec Marion Guilbeault.
All right, let's have a little rumble at the Ritz tonight.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Une musique qui nous éloigne de la Turquie et de la Syrie ce soir,
du Rojava.
On a pris un peu un contre-pied. Ça fait deux lundis que c'est comme ça. Lundi dernier, c'était aussi le Brésil. C'était Lucas Santana. Et puis aujourd'hui, c'est la solaire, la magnifique Flavia Coelho. Elle est originaire, elle aussi, du Nord-Est. Elle a été élevée au son de Nina Hagen, de la pop américaine, des cabarets où l'emmenait sa maman. Et Flavia Coelho, elle a intégré très très tôt les groupes de samba. Elle a écumé les scènes brésiliennes avant de craquer pour la France et de décider de s'y installer. Elle était en tournée ici, puis elle a complètement craqué sur Paris, sur la France. Elle a dit, allez, c'est là que ça va se passer pour moi. Et comme ça, elle a réussi aussi à s'émanciper de la culture patriarcale de son pays. Alors cette émancipation, elle est passée par plusieurs choses. Elle est passée par le métissage des sons. La samba, le foro font les foufous avec le reggae, des sons plus urbains chez elle. Et puis ça passe aussi par une chaleur, par une liberté de ton contre la corruption au Brésil, contre la folie Bolsonaro en général. Et celle qui avoue s'être souvent sentie soit trop blanche, soit trop noire, soit trop indienne, eh ben aujourd'hui, elle se trouve pile à la bonne place pour assumer et affirmer tout son ADN musical, humain, politique, sociétal dans DNA. C'est le titre de son nouvel album. Alors bonsoir, chère Flavia. De quoi est-il question dans Billy Django? C'est la chanson que vous allez jouer ce soir dans le nouveau rendez-vous.
Alors Billy Django, c'est un personnage que j'ai créé pour aller contre le méchant loup qui essaie de maltraiter toutes les populations. Billy est là pour se battre contre ces méchants-là.
On peut l'emmener partout dans le monde, Billy Django?
Il est surtout dans chacun d'entre nous.
D'accord, super. Bien, on vous écoute, Flavia Coelho.
Quem quiser bater,
Merci à vous.
C'était Flavia Coelho, Billy Django, extrait de DNA, c'est son nouvel album qui vient de sortir. Elle était accompagnée par Victor au clavier, Victor qui a également produit ce disque avec elle, et Al à la batterie. Les deux musiciens sont sur le disque. Ils sont en concert à la Cigale à Paris le 29 octobre, et puis après il y aura Toulouse, Bordeaux, Angoulême, Lyon le 28 novembre. Saint-Etienne, il y a une tournée qui reprendra en 2020. Et la prise de son ce soir est assurée par nos Billy Django à nous, Alexandre Chenet et Serge Viguier.
Merci à tous nos invités, merci Jeanne Han. Est-ce qu'il y a des concerts prévus dans quelques jours, dans quelques...
Oui, on prépare une grande soirée pour soutenir justement notre population là-bas. Et on a une association qui est Espoir Afrin, qui est créée depuis l'aviation de Afrin à Paris.
Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci Chelchouk Demir, merci Salam Kawakibi. Gilles Kepel, je rappelle, Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, c'est aux éditions Gallimard. Et Paul Morera, le film Volontaires étrangers dans l'enfer de Raqqa est disponible sur le site d'Arte depuis le 11 octobre dernier. Ça, c'était le NRV première partie. On se retrouve dans 15 minutes pour le NRV la suite, pour plus de France Inter. Demain, au programme du NRV, ce sera la France en colère. Christophe Bourseiller, vous serez là.
Ça lui arrive de s'énerver un petit peu, la France.
Pompiers.
C'était même un peu trop violente, ouais, on pourrait dire.
En ce moment, oui. On vous attend sur le sujet. Vous pouvez bien sûr laisser des messages, des analyses, des questions
peace
sur notre répondeur. 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. En live demain, Marion.
On sera peace and love, comme vient de dire Christophe, avec la pop romancée d'Antoine Pell.
Le NRV, c'est Juliette Medevielle à la réalisation. Programmation, préparation, Virginie Rosic et Clémence Diligent. Et je vous donne rendez-vous dans 15 minutes après le journal pour un rendez-vous avec X sur les mystères du mur de Berlin. C'est au programme du NRV La Suite, France Inter Plus, bien sûr.
Rendez-vous.